Mémoire vive,
présenté par Antoine Mercier
et préparé par Rachel Rimer, une émission de RCJ avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Bonjour, un numéro spécial de Mémoire vive ce dimanche consacré au thème Justice et Shoah et nous sommes en compagnie de Robert Badinter. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Robert Badinter, sénateur socialiste, ancien garde des Sceaux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce thème donc Justice et Shoah comporte évidemment de très nombreux volets, concerne une large actualité. Alors je cite en vrac, non pas pour qu'on en parle spécifiquement, mais pour montrer la prolifération d'affaires ou de procès autour de cette question. La polémique qui se poursuit d'abord à propos de la réintégration dans l'Église catholique de l'évêque négationniste Williamson, on en parlera à la fin de l'émission. Bon, l'affaire des Dieudonné, on s'en souvient, sur laquelle le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, mais aussi un mandat d'arrêt qui a été délivré par un tribunal allemand récemment contre Ivan Demjanjuk, le gardien du camp de Sobibor, mais encore la reconnaissance, c'était le mois dernier par le Conseil d'État français, de la responsabilité de l'État dans la déportation de Juifs. Ou bien enfin tout le rapport de ces derniers mois autour des lois dites mémorielles, pour lequel d'ailleurs rapport vous avez été auditionné. Bref, la Shoah, ses conséquences continuent d'alimenter, on pourrait dire, la chronique judiciaire française et internationale. On va parler de ces sujets, Robert Badinter. On commence peut-être par une question, disons, générale. Dans l'ensemble, près de 65 ans après les faits, est-ce que vous diriez que pour l'essentiel, la justice a fait ce qu'elle pouvait faire vis-à-vis de la Shoah ?
Vous avez raison de dire ce qu'elle pouvait faire, parce que tout dépend de la volonté politique de saisir la justice. Elle ne se saisit pas communément elle-même. Vous avez à cet égard un événement, à mon sens, décisif, au moins pour la France, c'est la loi de 1964 déclarant imprescriptibles les crimes contre l'humanité. J'avais été pris au regard d'Oradour sur Glane, et c'est le texte qui a permis ensuite de poursuivre les auteurs que l'on connaît et qui ont fait l'objet de poursuites et de procès les uns après les autres. S'il n'y avait pas eu cette loi, la prescription aurait joué. Je rappelle qu'après la guerre, la justice, alors à cet égard, a été défaillante. Ça correspondait à la sensibilité de l'époque. Moi, je rappelle toujours que Bousquet a été jugé pour l'affaire du Vélodrome d'hiver. Et quand on regarde les chroniqueurs judiciaires du moment où il a été jugé, c'était quand même quelques années après la guerre. Tous les juges, c'était une cour de justice composée de résistants, se souvenaient très bien de ce rôle qu'avait joué Bousquet pendant l'occupation, de ses photographies avec les chefs de la Gestapo. Là, on n'avait pas besoin de reconstituer l'histoire. C'était de la mémoire presque immédiate. Or, Bousquet a été, par ses juges, condamné à quoi ? L'indignité nationale dont il a été relevé aussitôt pour, a-t-on dit, faire la résistance.
C'est ça,
et ça, c'est 4 ans après la guerre. Et là, on a évoqué toute une matinée, j'ai regardé les faits du Vélodrome d'hiver. Donc, il est évident que la sensibilité de l'époque n'était pas vive en ce qui concernait le Vélodrome d'hiver et les déportations. C'est une lente émergence pour un homme comme moi. C'est un progrès considérable que j'ai vu très lentement émerger, avec d'ailleurs des zones de résidence, y compris chez certains juifs, non, pas ressortir tout ça, oh là là, je me souviens, au moment du procès Barbie, j'étais garde des Sceaux, on entendait dire, oh, non, surtout pas, faut pas réveiller ça, on va parler de l'assassinat de Jean Moulin, et puis après tout, il y avait une tendance à jetons le voile de l'oubli sur ces lointains événements, et c'est grâce... Oui, je rends témoignage aux avocats des partis civils de l'époque, à Clarsfeld, à d'autres aussi, que lentement la conscience a été prise qu'on ne pouvait pas laisser les crimes contre l'humanité impunis, et notamment celui qui demeure, à mon sens, le premier d'entre eux pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la Shoah. Mais ça a été une lente prise de conscience, et pour la justice française notamment, une épreuve très difficile, parce que reconstituer ce qui est advenu des décennies après, c'est une entreprise judiciaire très difficile.
Alors, il y a eu effectivement ce moment important. Est-ce que aujourd'hui encore, par rapport à cette question des criminels de guerre, est-ce qu'il y a encore, disons, des personnes qui pourraient être jugées, qui pourraient être arrêtées ? Est-ce que c'est encore temps ?
Si on évoque le choix, je pense pour ma part que l'essentiel a été fait. Je n'imagine pas, en tout cas, en France, qu'il y a encore des criminels, peut-être en existe-t-il, co-auteurs, complices d'actes dans le cadre de la Shoah, qui auraient échappé aux poursuites et notamment à l'action des partis civils. Ben, j'en vois pas. Moi, je crois que la dernière décision a été rendue en 2001 à propos de Loïc Brunner, dont on s'interroge toujours. On pense qu'il est mort, n'en parlons plus. Mais vous avez encore quelques vieillards, ça et là. Je me souviens d'un Italien il n'y a pas si longtemps. Vous mentionnez un Ukrainien.
Demagnuk, effectivement, parce que l'Allemagne, un tribunal allemand, a demandé son extradition. Il était aux États-Unis, il a 88 ans.
C'est ça.
Et il pourrait éventuellement.
Un Ukrainien, réfugié aux États-Unis, c'est un faux nom, qui a échappé, comme Eichmann le faisait, des décennies, lui, plus longtemps, poursuite, qui a failli d'ailleurs être, je crois, extradé. La Cour suprême israélienne est intervenue. Bref, on ne l'a pas extradé pour la fois. Maintenant, les choses sont prêtes. Ce sont les Allemands qui le jugeront. Il a 88 ou 89 ans. On arrive quand même, par la force des choses et du temps, à la limite de ces procédures. S'agissant de la Shoah, parce que je tiens à le dire, ce qui est intervenu à propos de la Shoah, ce n'est pas unique. C'est, à mon sens, le point de départ et la prise de conscience de plus en plus forte qu'on ne pouvait pas laisser les crimes contre l'humanité impunis. Moi, c'est une cause à laquelle j'ai consacré beaucoup, beaucoup de mon énergie dans les 20 dernières années. Parce que je considère que dès l'instant où la conscience se refuse à accepter l'idée de prescriptibilité, il n'est pas concevable que pour des raisons politiques, quelles qu'elles soient, les responsables de ces crimes, quelles que fussent leurs fonctions, échappent à la justice. Et l'émergence de cette conscience-là était longue et difficile, de se heurtant encore à de nombreux impératifs politiques. Mais nous avons quand même eu, si vous y réfléchissez, dans les dernières années, des progrès considérables. Nous avons eu le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda. Nous avons la Cour pénale internationale qui est alors la plus grande réussite, à mon sens, dans ce domaine. C'est-à-dire que nous avons une institution permanente qui a pour vocation de juger les criminels contre l'humanité, progrès immense, et vous avez alors des juridictions ad hoc faites au coup par coup. Je pense en particulier à ce qui advient en ce moment même au Cambodge, s'agissant des Khmers rouges, qui eux aussi sont des criminels contre l'humanité de premier rang, 30 ans d'impunité, mais finalement, on le sait, un procès est en cours et d'autres suivront. Tardivement, mais suivront. Et vous avez aussi le procès qui commence devant le tribunal spécial des Nations Unies à propos de l'assassinat de du premier ministre lyonnais. Donc le mouvement qui est issu profondément de cette idée, il faut que la justice se saisisse et condamne ces criminels, qu'ils ne restent pas impunis, qu'ils ne bénéficient pas de l'immunité de leurs fonctions, qu'ils ne bénéficient pas de la loi d'amnistie, qu'ils finissent pas, alors que les victimes attendent à juste titre la condamnation, pêchant la ligne paisiblement au bord d'un lac, entourés de leurs petits-enfants et de l'estime générale. Ça, c'est insupportable. Donc, c'est un grand progrès de la justice.
Est-ce que vous dites là, question, disons, annexe, mais très importante, ça ne remet pas en cause ce qu'on appelle l'unicité de la Shoah?
Ah non! Que la Shoah. Moi, je toujours pensé, la Shoah est, pour ne prendre que le XXe siècle, le crime contre l'humanité le plus atroce qui ait été commis. Hélas, il n'est pas le seul. Le siècle, le XXe, s'ouvre avec quoi? Le génocide arménien. Il s'achève comment? Sur le génocide rwandais. Vous avez au milieu, qui se dresse comme une espèce de symbole atroce, Auschwitz, qui représente, qui, je dirais, symbolise le crime contre l'humanité. L'état pur, l'enfant juif jeté dans la chambre à gaz parce qu'il est né juif, le crime d'être né juif, disait très bien un écrivain catholique. Mais vous savez, qu'il s'agisse de la chambre à gaz, ou de l'utilisation de la machette, ou de la lance, ou du coucou, ce que vous voudrez, le résultat est toujours le même, il n'y a que le procédé qui change, et la haine de l'homme pour l'homme est toujours aussi forte. Donc je dis oui, la Shoah est unique dans le contexte historique européen où elle s'inscrit. Hélas, avant la Shoah, il y a eu crime contre l'humanité, et après la Shoah, le crime contre l'humanité continue. En un mot, Caïn fait partie de l'espèce humaine, et nous l'avons rencontré.
Robert Badinter, si vous voulez, on passe maintenant à la question de la responsabilité des États, et notamment de la France, la collaboration. Est-ce que vous diriez que, il y a une décision du Conseil d'État récemment, qui a donc reconnu la responsabilité de l'État dans la déportation des Juifs. Est-ce que vous avez l'impression que ça marque un aboutissement? Je cite simplement donc le Conseil d'État qui a jugé la discrimination raciale pratiquée par l'autorité française sous l'occupation comme constitutive des agissements d'une exceptionnelle gravité, qui avait le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Il y a eu la déclaration Chirac. Il y a quelques mois, cette décision du Conseil d'État. Est-ce que là, vous avez l'impression qu'on est allé aussi au bout de ce que la justice pouvait faire par rapport à cette question de la responsabilité de l'État en France?
Dans le domaine de la justice administrative, sûrement. Là, j'évoquais avant le jugement des criminels eux-mêmes. Justice pénale. Ici, c'est la responsabilité de l'État qui est engagée et le Conseil d'État répond condamnation parce que faute d'une exceptionnelle gravité, je dirais presque jurisprudence bienvenue, mais décision attendue. Je rappelle d'ailleurs, ce qui est moins connu, que Papon avait demandé à l'État, avait signé à l'État pour que l'État prenne à sa charge une partie des dommages-intérêts versés aux victimes. Et que le Conseil d'État a reconnu que, s'agissant de ces agissements-là, il convenait que l'État, et vous aviez déjà les mêmes formules concernant la responsabilité de l'État, a été reconnue, et sauf erreur de ma part, les indemnisations ont été prises à charge par l'État à concurrence de la moitié de la condamnation. Ça s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil d'État. Je dirais qu'il en est heureusement ainsi, car
juridiquement, c'est cohérent.
Regardez, c'est sûr, ouais. Si l'État français de cette époque n'était pas reconnu comme responsable autant qu'un État puisse l'être, vis-à-vis de ceux qui ont été la victime de ces persécutions, de ces déportations, alors que resterait-il de la responsabilité de l'État?
Question annexe, on en parle aussi beaucoup par rapport à la responsabilité de la SNCF. Il y a eu certains procès qui ont eu lieu. Quel est votre sentiment?
Écoutez, mon sentiment va ici s'enraciner dans un témoignage. Moi, j'ai connu et vécu cette époque. Et j'ai un souvenir très précis des quais de gare de l'occupation. Je rappelle que pour les Allemands, il était vital de contrôler absolument et impérativement le mouvement des trains, parce que transport de troupes, ou bien tout simplement fourniture venant des spoliations en France, tout ça était, pour l'armée allemande, pour l'effort de guerre allemand, de première exigence. À part les déportations, mais de première exigence. Et je le souviens, mais physique, sur le quai de la gare, que ce soit à Lyon, à Chambéry ou dans d'autres gares de l'époque, il n'y avait pas de quai de gare sans patrouillant de façon permanente des soldats avec des chiens. Donc, c'était cela, la réalité. Et quand vous regardiez ce qu'était, vous savez, ces espèces de guichets vitrés permettant de surveiller toutes les voies des chefs de gare de l'époque, il y avait toujours, un souvenir très vivace, c'était un jeune adolescent, mais ces souvenirs-là, on ne peut pas les oublier. Là, dans ce bureau, on voyait sur le quai de la gare, à côté du chef de gare français, toujours un chef de gare, enfin, un spécialiste de la Reichsbahn allemande. Donc c'est dire que la marge de manœuvre, s'agissant de ce qui était un outil indispensable pour l'effort de guerre des nazis, elle était à mon sens nulle. Alors moi je comprends que les fils des cheminots, sinon les cheminots eux-mêmes, et encore quelques survivants, ressentent l'idée qu'à travers ces décisions, on déclare que la SNCF a collaboré. Parce que à l'intérieur de la SNCF, au sein de la SNCF, comme je le disais, la marge de manœuvre était étroite et il y a eu tant de résistants. Proportionnellement, c'est l'entreprise française qui a fourni le plus de résistants et le plus de fusillés que je comprends qu'ils le ressentent au fond d'eux-mêmes.
Robert Badinter, on en vient, si vous voulez bien, à la question de ce qu'on appelle les lois mémorielles. Il y a eu un rapport de la mission d'information sur ces questions, dirigé par le président de l'Assemblée, Bernard Accoyer, qui préconisait, donc c'était en novembre dernier, que le Parlement ne légifère plus sur l'histoire, ne prescrive plus non plus le contenu des manuels scolaires, mais il excluait toutefois de mettre en cause les lois existantes, et notamment la loi Guesso, ainsi que la loi Taubira. Alors, globalement, par rapport à ce rapport qui disait, le Parlement n'a plus à faire l'histoire, vous étiez, je crois, d'accord, évidemment, sur ce
point. J'ai toujours été opposé au principe des lois mémorielles. Non pas que Cela veut dire que les faits n'ont pas existé. Mais simplement pour des raisons qui sont des raisons constitutionnelles. Je comprends très bien les historiens, j'aurais signé le manifeste des historiens. C'est pas au parlementaire l'histoire. Mais je regarde les choses sous un autre angle. Nous vivons sous l'empire d'une constitution. Et dans la constitution de la Ve République, les compétences du Parlement sont strictement déterminées. C'est l'axiome anglais, le Parlement britannique peut tout faire sauf changer une femme en homme. On pourrait se poser d'ailleurs des questions. Enfin, peu importe, ou un homme en femme, mais peu importe, dans la Ve République, il y a une répartition des compétences. Et rien ne permet d'interpréter cette constitution en disant que le Parlement va se prononcer et a pour compétence de se prononcer sur des faits historiques. Non, c'est hors de sa compétence. Alors, je sais bien que par rapport à tel courant tout à fait respectable de sensibilité à vif, les parlementaires veulent faire plaisir, mais ils sortent de leur domaine de compétence. Et la question n'a jamais été soumise au Conseil constitutionnel, mais vous permettrez à l'ancien président de s'interroger sur ce que serait la réponse. En tout cas, pour moi, c'est très clair, le Parlement n'est pas l'histoire.
Alors, vous faisiez référence à l'appel de Blois qui avait été lancé par des historiens, notamment fondé par René Raymond. Mais tout de même, Robert Badinter, la loi Guesso dans tout ça, est-ce que vous êtes pour revenir sur la loi Guesso?
Non, la loi Guesso se présente sous un aspect que le public ne perçoit pas assez clairement. Enfin, la loi Guesso est particulière en ce sens que ce qu'elle interdit, c'est la négation qui porte atteinte à l'autorité de la chose jugée en vertu du jugement de Nuremberg. Je rappelle qu'à Nuremberg, les faits de la Shoah ont été évoqués, que la France était partie au statut de Londres qui a créé le tribunal international de Nuremberg et que Nuremberg a autorité de la chose jugée en France à l'égard de tous. Donc dans ce cas particulier, le législateur a dit on ne doit pas permettre d'attenter à ce qui a été jugé par une instance internationale, à propos de faits exceptionnels, mais par une instance internationale où l'autorité s'impose à nous. Je souligne aussi que il n'y aurait pas d'instance de révision possible, parce que qui pourrait réviser le jugement du tribunal de Nuremberg? Donc, vous avez une situation particulière. Et la question qui se serait posée, qui n'était pas posée, mais qui serait posée juridiquement, extraordinairement complexe, c'est est-ce que on peut interdire de remettre en question ce qui a fait l'objet d'une décision d'une juridiction internationale et une autorité de la chose jugée? C'est ça la vraie question juridique. Alors, par ailleurs, il y a un aspect politique évident, on comprend l'action du Parlement. Moi, je comprends aussi que les historiens, soucieux de préserver leurs prérogatives, disent « Non, liberté absolue, chacun a le droit de dire, après tout, nous en avons connu. » Il y a ceux qui vous disent que Louis XVI n'a jamais été guillotiné, mais quelqu'un a pris sa place, n'est-ce pas ? Et vous rencontrez des obstinés qui vous expliquent très bien que Jeanne d'Arc était un homme et qu'il suffit de regarder la taille de son armure. Mais là, comme vous touchez au pire des crimes contre l'humanité, évidemment, on comprend la réaction.
Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle justement, puisqu'on y a du négationnisme. Est-ce qu'il faut poursuivre, selon vous, systématiquement, les propos négationnistes qui soient tenus par des humoristes ou par des historiens?
Écoutez, le négationnisme est une infamie. Je le dis clairement, c'est une infamie. Et c'est une infamie atrocement lourde de conséquences pour les victimes. Je le sais. J'ai eu l'occasion de le dire quand M. Forisson m'a signé devant le tribunal en disant « M. Badinter a déclaré que j'avais été condamné, c'était ma dernière plaidoirie, comme faussaire contre l'histoire ». Pas du tout, le jugement du tribunal, c'est « il a méconnu les obligations qui sont celles de l'historien ». J'étais passé 25 ans, moi je ne me souvenais plus. Bien entendu, le tribunal a écarté la demande de Forisson. Mais à cette occasion, j'ai quand même rappelé, vous mesurez ce que ça signifie pour les survivants. Ça veut dire quoi, le révisionnisme? Le négationnisme, ça veut dire que vos parents, quand ils sont partis et dont vous n'avez plus jamais entendu parler, ils ne seraient pas morts? Ils n'auraient pas atteint Sobibor ou Auschwitz, alors qu'on a les évidences? Et là, ils n'auraient pas disparu? Comment? Il y a dans le négationnisme une négation de cette mort, de cette entreprise de mort criminelle qui a happé les vôtres. Et c'est une douleur infinie, parce que ça nie le destin tragique
de vos parents. Et j'ajoute que ça va plus loin encore. C'est que les exploitants politiques du négationnisme s'en servent pour dire que c'est une vaste escroquerie montée par les juifs. Pourquoi ? Pour, conformément à cette rapacité qui est leur trait irrésistible à travers les siècles dans la vision antisémite, pour obtenir des indemnités auxquelles ils n'auraient pas droit, et pour fonder la légitimité de l'État d'Israël, qui, je le rappelle, est né d'une résolution des Nations Unies. Alors, moi, je pense toujours à ça, et je me dis, mais ça veut dire que ma mère, pour la petite indemnité versée en 48, c'était quoi ? C'était de l'escroquerie ? Elle faisait un recel d'escroquerie. C'est cela ce que ça signifie pour chacun d'entre nous. C'est pas seulement l'outrage inouï au regard du destin terrible des parents, c'est l'outrage en ce qui concerne les juifs tout entiers, des escrocs et l'État d'Israël, fondé à partir d'un mensonge. Donc c'est en effet une abjection, le négationnisme.
Il nous reste vraiment quelques secondes pour parler de l'évêque Williamson, réintégré dans l'Église par le pape.
Après ce que j'ai dit, je ne vais pas aller plus loin en ce qui concerne le négationnisme. Non, mais que le problème soit d'une extrême gravité.
Cette fois-ci,
pour nos amis chrétiens et pour nos amis catholiques, je le conçois, c'est quand même un acte extraordinairement blessant que de dire « je réintègre dans l'Église un homme qui se proclame ostensiblement négationniste ». Cela signifie beaucoup. Cela veut dire qu'on considère que c'est moins important de réintégrer dans l'Église un négationniste aux côtés de l'avantage de réintégrer dans l'Église un intégriste. L'intégrisme transformé en négationnisme, ça n'aurait donc pas d'importance. C'est terrible, vous savez. Et j'ai beaucoup d'amis catholiques qui sont révoltés par ce qui est quand même un choix. Alors on dit que le pape l'ignorait, je ne sais pas, je pensais moi que dans une réputation multiséculaire, l'Église était plus que tout autre, sans aller jusqu'à l'infaillibilité, qui est le propre du pape, l'Église était plus que toute autre institution tout à fait au fait de ce qu'elle faisait.
Robert Badinter, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je donne rendez-vous à nos auditeurs donc dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mémoire vive sur RCJ.